On va parler de sécurité intérieure à présent, les incivilités, les agressions de la petite délinquance, les règlements de compte entre dealers jusqu'aux menaces terroristes. Tout cela serait le fruit de lâcheté de nos élites. C'est votre thèse, Éric Delbecq. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en sécurité intérieure et vous venez de publier ce livre « L'insécurité permanente, les causes de l'impuissance française ». Ça paraît aux éditions du Cerf. L'insécurité, écrivez-vous, entre autres à cause de l'ensauvagement de la société. Ça rappelle les sauvageons du ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement. Ça veut dire quoi, l'ensauvagement?
Alors déjà, je fais la différence entre l'ensauvagement et la décivilisation. Et l'ensauvagement, c'est essentiellement pour parler de territoires, de zones sur lesquelles les lois de la République ne fonctionnent plus, ne sont plus appliquées. Donc il y en a un certain nombre en France, alors on peut les appeler comme on veut, c'est des quartiers de sécurité républicaine, c'est des zones de reconquête républicaine, c'est en tout cas des zones dans lesquelles la population ne peut plus bénéficier des lois de la République et donc est sujette à une délinquance qui est, je dirais, régulière. On peut pas toujours dire que l'insécurité est permanente, mais qui en tout cas est très régulière. Et la décivilisation, c'est autre chose. C'est un manque de civilité qui a tendance à se répandre et qui fait aujourd'hui que quand vous promenez dans la rue, quand vous êtes en voiture, tout peut vite s'échauffer.
Pourquoi les pouvoirs publics successifs n'arrivent pas à juguler ces actes de violence devenus ordinaires?
Parce qu'en fait, il faut une volonté qui est durable. Il faut de la pérennité, il faut du long terme. Il faut avoir une stratégie sur 10, 15, 20 ans. Et les rythmes politiques ne sont pas très en phase avec des stratégies sur 20 ans.
Parce que depuis 40 ans, et vous l'écrivez aussi, les politiques se contentent d'empiler des textes. On se contente trop souvent de réagir à l'actualité. Personne n'a eu de vision à long terme sur ce sujet.
Très peu de gens. Alors j'ai l'habitude de dire, on n'agit plus en anticipation de crise, mais en désespoir de cause. C'est-à-dire que quand les problèmes s'accumulent, par ordre de priorité, on essaie de les gérer. Et en fait, depuis 40 ans, effectivement, on a renoncé à ce qu'on appelle un peu pompeusement, mais on voit bien ce que ça veut dire, un état stratège. C'est-à-dire on essaie de comprendre comment la situation va se développer, parce qu'on peut avoir un tas d'indicateurs, et on va mettre en place des mesures correctives et ne pas laisser s'enquister un certain nombre de problèmes.
Et ces territoires perdus de la République, c'est, dites-vous, l'effet conjugué du trafic de drogue d'un côté et d'un islamisme rampant?
Oui, parce que on a souvent l'habitude d'opposer les deux, ou de dire par exemple là où il y a des salafistes, il n'y a pas de trafic de drogue et inversement. Non, parce qu'en fait tout ça est très hybridé, très interpénétré. Donc c'est totalement artificiel de vouloir les séparer.
Parce que l'islam prohibe l'usage des drogues.
Ah oui, mais l'islam.
Pas l'islamisme.
Et quand on parle d'islamisme, on parle de gens qui ont à la fois un profil de délinquant et un profil d'extrémiste. Donc à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de combinaisons qui sont possibles. Et puis vous avez des islamistes qui par ailleurs vont expliquer que c'est mal, mais qui pour leur propre compte vont être usagers ou dealers.
Et sans beaucoup de courage, on se contente, écrivez-vous, de changer les logos. Emmanuel Macron d'ailleurs vient justement de changer l'organisation de l'islam de France. Exit le Conseil français du culte musulman, place désormais au forum de l'islam de France, le FORIF. Là encore, à vos yeux, il ne s'agit avant tout que de communication?
Alors là, pour le coup, non, parce que cette réorganisation, elle était absolument nécessaire. Il y avait pas mal de gens qui l'appelaient, des experts du domaine, notamment Mohamed Sifaoui, qui en parlait beaucoup. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Alors, il faudra se donner quelques années pour voir comment ça marche. Mais c'est vrai que la structure précédente était très largement ankylosée, inefficace.
Et inefficace, notamment sur la formation des imams qui laissaient...
Tout à fait.
Et l'influence des pays étrangers, Turquie, Maroc, Algérie. Éric Delbecq, votre livre « L'insécurité permanente », il y a aussi là-dedans la désillusion policière quand passe la justice avec des peines ou des applications de peines qui parfois découragent les policiers. La faute à qui? Au manque de place dans les prisons par exemple?
Surtout, on n'a pas de politique pénale ambitieuse et là également durable. Les juges condamnent, ça c'est vrai, on ne peut pas faire ce reproche aux magistrats. La question après, c'est quand on les empêche, on les encourage à ne pas appliquer les peines. C'était le cas d'une circulaire, la circulaire Belloubet, qui a en fait expliqué qu'elle n'allait pas exécuter les peines. Et en plus, cette circulaire a été censurée par le Conseil d'État. Béatrice Brugère, la magistrate qui avait attaqué la décision, en a longuement parlé. Et puis après, il y a la question de l'exécution des peines, avec des faux débats, c'est-à-dire que vous avez un camp qui dit les peines ne sont pas exécutées, et un autre qui dit mais si, elles sont exécutées. En fait, le débat n'est pas là, parce que si une peine est exécutée 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après avoir été prononcée, ça n'a plus de sens pour le délinquant. Donc la question est plutôt dans les modalités d'exécution des peines, elle n'est pas dans un pseudo-laxisme des magistrats qui n'existe pas. Après, il y a des magistrats qui peuvent être plus ou moins fermes, mais on peut pas faire le procès comme ça d'une profession.
Mais je vous demandais, c'est lié aussi à un manque de place dans les prisons? C'est pour ça qu'on aménage des peines et qu'on en fait pas forcément grand cas?
Alors, il y a un manque de place, mais ce manque de place, il n'est pas homogène. Vous avez des maisons d'arrêt qui sont surpeuplées et vous avez des maisons d'arrêt qui ne le sont pas. Donc, il faudrait aussi regarder tout ça de manière un peu plus précise.
La délinquance, c'est aussi le fruit d'actes de gamins, de mineurs, dont on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faudrait être plus sévère avec cette délinquance des mineurs?
Alors, il faudrait surtout la sanctionner beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, pour qu'un mineur comprenne qu'il ne doit pas recommencer, la sanction doit tomber rapidement. Et de surcroît, plus elle tombe rapidement, plus elle peut être courte. Parfois, 15 jours, un mois de rupture avec son milieu familial et le milieu qui produit la délinquance pourrait stopper une spirale de la délinquance. Donc en fait, il faudrait inverser notre dispositif, avoir des peines qui arrivent plus vite et qui soient plus courtes, plutôt qu'elles arrivent beaucoup plus longtemps après et qu'elles soient plus longues.
À vous entendre depuis le début de cette interview, on pourrait vous cataloguer peut-être politiquement, sûrement un peu vite. Vous répondez que l'insécurité ne doit pas être qu'une obsession de la droite.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui essaient effectivement de me cataloguer. Et moi, je pense que c'est pas du tout une obsession de droite, puisque ceux qui pâtissent le plus de l'insécurité, ce sont les gens les moins privilégiés. Si j'emploie un vocabulaire un peu plus familier, ce ne sont pas les riches qui ont des problèmes de sécurité. Ils ont toujours les moyens de se protéger. Ceux qui ont des problèmes de sécurité, c'est les gens qui n'ont pas grand-chose. C'est les gens qui sont démunis, c'est les gens qui ne sont pas privilégiés.
Vous avez écrit ce livre après la mort de deux policiers. De quoi vouliez-vous témoigner au départ ?
Premièrement, du fait que les policiers, les gendarmes ont un travail difficile qui risque leur vie et que donc faire parfois leur procès, dire qu'ils ne sont pas assez efficaces, qu'ils ne font pas leur métier, c'est faux. Donc il faut savoir les soutenir. Mais en même temps, il faut comprendre que les problématiques sont plus globales et que la sécurité, c'est une chaîne. On parle de chaîne pénale, mais la sécurité, c'est une chaîne. Le continuum de sécurité, le fait qu'il y a un tas d'acteurs concernés, c'est très important de le redire. Et effectivement, on ne doit pas choisir entre la prévention, la répression. Il faut faire des deux, il faut le faire correctement. Il y a effectivement des jeunes gens qu'il faut délivrer de la délinquance, il faut les en retirer le plus vite possible, et puis après il y a des gens qui, au bout d'un certain nombre d'années, sont effectivement perdus. Il faut savoir protéger la société de ces gens-là.
Eh bien, toutes ces pistes évoquées, toute cette réflexion, on va la retrouver donc dans votre livre, Éric Delbecq. Ça s'appelle « L'insécurité permanente, les causes de l'impuissance française ». C'est une mine d'informations et de réflexions sur le sujet. C'est publié, ça vient de sortir aux éditions du Cerf. Merci
à vous
d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Il est 7h59.